L'abrégé du capital de Carlo Caffiero. Machine et grande industrie. Deuxième partie.
La subordination technique de l'ouvrier à la marche uniforme de l'instrument de travail et la composition particulière de l'effectif des travailleurs, formés d'individus des deux sexes et de tout âge, créent une discipline de caserne et donnent naissance au régime des fabriques. Là, on voit arriver à leur plus haut degré de développement cette organisation de surveillance, dont il a déjà été parlé, et la division des travailleurs en ouvriers manuels et contremaîtres, en simples soldats et sous-officiers de l'armée industrielle. Le docteur Ur, le chantre lyrique des beautés du régime des fabriques, dit à ses propos « La principale difficulté dans la fabrique mécanique consistait dans la discipline nécessaire pour faire renoncer les hommes à leurs habitudes irrégulières dans le travail et les identifier avec la régularité invariable du grand automate. Inventer et mettre en vigueur avec succès un code de discipline répondant aux besoins et à la célérité du système automatique était une entreprise digne d'Hercule. Dans le code de la fabrique, le capital formule en législateur privé et en vertu de son bon plaisir, l'autocratie qu'il exerce sur ses ouvriers, sans se préoccuper du principe de la séparation des pouvoirs, si cher à la bourgeoisie, ni du système représentatif, plus prôné encore par elle. Le fouet du conducteur d'esclaves est remplacé par le livret de punition du contremaître. Punition qui toutes se résolvent naturellement en amende et en retenue sur le salaire. Friedrich Engels dit « L'esclavage auquel la bourgeoisie a soumis le prolétariat ne se présente nulle part plus clairement que dans le système des fabriques. Ici, toute liberté cesse, de droit et de fait. L'ouvrier doit être à la fabrique le matin à 5h30. S'il arrive un couple de minutes plus tard, il est puni. S'il est en retard de 10 minutes, on ne laisse entrer qu'après le déjeuner et il perd un quart de journée de salaire. Il faut qu'il mange, boive et dorme au commandement. Le fabricant est législateur absolu. Il fait des règlements selon son bon plaisir. Il amende son code et il fait des additions comme bon lui semble. Quand il y introduise les dispositions les plus extravagantes, les tribunaux n'en diront pas moins à l'ouvrier. Puisque vous avez librement accepté ce contrat, vous devez vous y soumettre. Ces travailleurs sont condamnés à vivre de l'âge de 9 ans jusqu'à leur mort sous la verge spirituelle et corporelle. Prenons deux cas comme exemple de ce que disent les tribunaux. À Sheffield, en 1866, un ouvrier s'était embauché pour 2 ans dans une fabrique métallurgique. À la suite d'une querelle avec le fabricant, il quitta la fabrique en déclarant qu'il refusait absolument de continuer à travailler pour son patron. Poursuivi pour rupture de contrat, il fut condamné à 2 mois d'emprisonnement. Si c'est le fabricant qui rompt le contrat, il ne peut lui être intenté qu'une action civile et il ne risque qu'une condamnation à des dommages et intérêts. Une fois l'ouvrier sorti de prison, le fabricant lui intima l'ordre de rentrer à la fabrique en vertu de l'ancien contrat. L'ouvrier refusa, disant qu'il avait purgé sa peine. Il fut poursuivi de nouveau et condamné une seconde fois, bien que l'un des juges, M. Shi, eût dénoncé publiquement le cas comme une énormité juridique en vertu de laquelle un homme pourrait être condamné périodiquement toute sa vie pour le même délit. Ce jugement n'a pas été prononcé par d'ignorants juges de campagne, mais par une des plus hautes cours de justice de Londres. Le second cas s'est produit dans le Wiltshire, en novembre 1863. Environ 30 tisseuses, au métier mécanique, occupé par un certain Harup, fabricant de draps, s'était mise en grève parce que le dit Harup avait l'agréable habitude de faire des retenues sur leur salaire lorsqu'elle se trouvait en retard le matin, à savoir 6 pence pour 2 minutes, 1 shilling pour 3 minutes et 1 shilling 6 pence pour 10 minutes. Or, le salaire moyen de ces ouvrières était de 10 à 12 shillings par semaine. Harup avait chargé un jeune garçon de sonner l'heure de la fabrique. Celui-ci sonnait parfois avant 6 heures, et dès qu'il avait cessé, les portes étaient fermées, et les ouvrières qui n'étaient pas entrées étaient passibles de l'amende. Comme il n'y avait pas d'horloge dans la fabrique, les malheureuses femmes étaient à la merci du jeune sonneur, inspiré par Harup. Les ouvrières en grève, mères de famille et jeunes filles, déclarèrent qu'elles reprendraient le travail si le sonneur était remplacé par une horloge et si un tarif d'amende plus raisonnable était établi. Harup cita 19 femmes et jeunes filles devant les juges pour rupture de contrat. Elles furent condamnées chacune à 6 pence d'amende et à 2 shillings 6 pence de frais, à la grande indignation de l'auditoire. Harup, à la sortie de l'audience, fut reconduit à coups de sifflet par la foule. Les tristes effets de la fabrique et de la grande industrie sont toujours prévus par les travailleurs, comme le montre l'accueil qu'ils ont fait dans chaque circonstance aux premières machines. Au XVIIe siècle, eurent lieu dans presque toute l'Europe des révoltes d'ouvriers à l'occasion d'une machine à tisser des rubans et des galons inventée en Allemagne, où elle fut appelée Bandmühle ou Bandstuhl. L'abbé Lancelotti raconte ce qui suit dans un livre qui parut à Venise en 1636. Antoine Müller de Danzig a vu dans cette ville il y a environ 50 ans, Lancelotti écrivait en 1579, une machine très ingénieuse qui exécutait 4 à 6 tissus à la fois. Mais le conseil de ville, ayant craint que cette invention ne réduisît à la mendicité une quantité d'ouvriers, supprima l'invention et fit secrètement étouffer ou noyer l'inventeur. En 1629, cette même machine fut employée pour la première fois à Leyde. Les émeutes des passementiers forcèrent d'abord la municipalité à l'interdire. Buxhorn dit à ce propos « Dans cette ville, quelques-uns inventèrent il y a une vingtaine d'années un métier à tisser au moyen duquel un seul ouvrier peut fabriquer plus d'étoffes et plus facilement que plusieurs ouvriers dans le même temps. » De là, des troubles et des querelles parmi les tisserands, jusqu'à ce qu'enfin, l'emploi de ce métier fut interdit par le magistrat. Après avoir rendu contre ce métier diverses ordonnances, qui en restreignaient l'emploi, en 1632, 1639, etc., les États généraux de Hollande finirent par en permettre l'usage, sous certaines conditions, par l'ordonnance du 15 décembre 1661. Cette machine fut interdite en Pologne en 1676. Et son introduction en Angleterre à la même époque y provoqua des troubles parmi les tisserands. Un édit impérial du 19 février 1685 en défendit l'usage dans toute l'Allemagne. À Hambourg, elle fut brûlée publiquement par ordre du conseil de ville. L'empereur Charles VI renouvela en février 1719 l'édit de 1685. Et ce fut seulement en 1765 que l'usage public en fut permis dans la Saxe électorale. Cette machine, qui a fait tant de bruit dans le monde, fut le précurseur des machines à filer et à tisser, c'est-à-dire de la révolution industrielle du XIXe siècle. Elle permettait à un jeune garçon qui ne savait rien du métier de tisseur de mettre en mouvement le métier avec toutes ses navettes, rien que par le va-et-vient d'une manivelle. Et elle exécutait dans sa forme perfectionnée 40 à 50 pièces à la fois. Vers la fin du premier tiers du XVIIe siècle, une scierie à vent, établie par un Hollandais dans le voisinage de Londres, fut détruite par la populace. Encore au commencement du XVIIIe siècle, les scieries à eau, en Angleterre, ne triomphèrent que difficilement de la résistance populaire soutenue par le Parlement. lorsque Everett, en 1758, construisit la première machine à eau pour tondre la laine, 100 000 hommes privés par elle de leur travail allèrent la brûler. 50 000 hommes qui vivaient du cardage de la laine pétitionnèrent auprès du Parlement contre les machines à carder d'Arkwright. La destruction de nombreuses machines dans les districts manufacturiers de l'Angleterre pendant les 15 premières années du 19e siècle fournit au gouvernement le prétexte de violences réactionnaires. Il faut du temps et de l'expérience avant que les ouvriers, ayant appris à distinguer entre la machine et l'emploi qu'en fait le capitalisme, dirigent leur attaque non plus contre le moyen de production lui-même, mais contre sa forme sociale d'exploitation. Il faut du temps et de l'expérience avant que les ouvriers, ayant appris à distinguer entre la machine et l'emploi qu'en fait le capitalisme, dirigent leur attaque non plus contre le moyen de production lui-même, mais contre sa forme sociale d'exploitation. Voilà donc quels sont les résultats des machines et de la grande industrie pour les travailleurs. Ceux-ci sont tout d'abord chassés en grand nombre des fabriques, dans lesquelles la machine a pris leur place. Le petit nombre de ceux qui y restent doivent subir l'humiliation de se voir arracher des mains le dernier outil de travail et d'être réduits à la condition de serf de la machine. Ils doivent supporter le fardeau d'une journée de travail extraordinairement accrue, renoncer à leurs femmes et à leurs enfants devenus les esclaves du capital, et endurer finalement d'inexprimables souffrances que fait naître la torture d'un travail progressivement intensifié par la folle passion de la plus-value dont le capitaliste est envahi dans la période de la grande industrie. Mais les théologiens ne manquent pas pour glorifier le dieu capital en expliquant et en justifiant tout par ce qu'ils appellent les « lois éternelles ». Au cri désespéré des travailleurs affamés par les machines, ils répondent par l'annonce d'une étrange « loi de compensation ». Une phalange d'économistes bourgeois, James Mill, McCulloch, Torrance, Senior, John Stuart Mill, etc., soutiennent que la machine, lorsqu'elle chasse des ouvriers de la fabrique, rend toujours disponible, simultanément et nécessairement, un capital propre à fournir une occupation nouvelle à ces mêmes ouvriers. Supposons que dans une manufacture de tapis, un capitaliste emploie 100 ouvriers, à chacun desquels il paie un salaire, une somme annuelle de 30 livres sterling. Le capital variable, ainsi dépensé par lui, s'élève donc à 3000 livres sterling. Il congédie 50 ouvriers et emploie les 50 autres à servir des machines qui lui coûtent 1500 livres sterling. Pour simplifier l'exemple, je fais abstraction du bâtiment, du charbon, etc. Supposons de plus que les matières premières employées coûtent, après comme avant, 3000 livres sterling par an. Est-ce que, par cette métamorphose, un capital quelconque a été rendu disponible ? Dans l'ancien mode d'exploitation, le total de la somme employée, capital constant et capital variable, était de 6000 livres sterling. Elle se compose maintenant de 4500 livres sterling de capital constant, 3000 livres sterling pour les matières premières, 1500 pour les machines, et 2500 livres sterling de capital variable pour le salaire de 50 ouvriers. L'élément variable est tombé de la moitié à un quart du capital total. Loin d'avoir été rendu disponible, un capital de 1500 livres sterling se trouve au contraire engagé sous une forme dans laquelle il cesse d'être échangeable contre de la force de travail. C'est-à-dire que de variable, il est devenu constant. À l'avenir, le capital total de 6000 livres sterling n'occupera jamais plus de 50 ouvriers. Et il en occupera un moins grand nombre à chaque perfectionnement de la machine. Si les machines nouvellement introduites coûtaient moins que la somme de la force de travail supprimée et des outils qu'elles employaient, par exemple 1000 livres sterling au lieu de 1500, Un capital variable de 1000 livres sterling se trouverait transformé en capital constant. Et un capital de 500 livres sterling deviendrait disponible. Ce dernier, le salaire restant le même, pourrait permettre d'occuper environ 16 ouvriers, tandis qu'il y en a eu 50 de congédiés. Et pas même 16, car peut-être transformé en capital, les 500 livres sterling disponibles devront être en partie employés comme capital constant, instrument de travail, matière première, etc. Et il n'en restera qu'une partie qui puisse être utilisée comme capital variable pour payer de la force de travail. La construction de la machine donne du travail à un certain nombre d'ouvriers mécaniciens qui n'en auraient pas eu sans cela. Mais est-ce là une compensation pour les ouvriers de la manufacture de tapis jetés sur le pavé ? Dans tous les cas, la construction de la machine occupe moins d'ouvriers que son emploi n'en déplace. La somme de 1500 livres sterling qui, pour les ouvriers de la manufacture renvoyés, ne représentait que des salaires, représente par rapport à la machine trois éléments divers. La valeur provenant des moyens de production nécessaires à sa construction, le salaire des ouvriers mécaniciens et la plus-value empochée par leur maître. En outre, une fois construite, la machine ne devra être refaite que lorsqu'elle aura cessé d'exister. Et pour occuper d'une manière permanente les mécaniciens qui l'ont fabriquée, il faudra que d'autres manufactures de tapis remplacent, l'une après l'autre, des ouvriers par des machines. Mais ce n'est pas d'une disponibilité du capital ainsi entendu que veulent parler en réalité les théoriciens de la compensation. Ils visent autre chose, les moyens de subsistance afférents aux ouvriers congédiés. On ne peut pas nier, en effet, que dans notre exemple, la machine est non seulement rendue disponible 50 ouvriers, mais qu'elle ait rompu la relation entre ceux-ci et des moyens de subsistance d'une valeur de 1500 livres sterling. Ces moyens de subsistance que les ouvriers ne consommeront pas faute de salaire ont donc été rendus disponibles. Voilà le fait dans sa triste réalité. Priver l'ouvrier de ses moyens de subsistance, rendre, entre guillemets, disponible ce qui devait le nourrir, cela s'appelle en langage d'économiste rendre disponible, au moyen de la machine, un capital destiné à faire subsister l'ouvrier. On le voit, tout dépend de la manière de s'exprimer. Il est permis de pallier les mots en leur donnant d'autres noms. On le voit, tout dépend de la manière de s'exprimer. Il est permis de pallier des mots en leur donnant d'autres noms.